David Guignebert est quant à lui enseignant à l'université de Tours. Il est chercheur associé à l'UMR 73-24 CITERES, ainsi qu'à l'Observatoire international des droits de la nature OIDN Montréal au Canada. Il est membre depuis 2021 du collectif Vers un Parlement de Loire et a initié en 2024 le Conseil diplomatique des bassins versants à Genève, en Suisse, qui est une institution potentielle en faveur des vivants et pour une diplomatie de l'eau non gouvernementale. Donc il fait partie de l'organe scientifique de l'Assemblée de la Terre France. Il est par ailleurs philosophe sous le nom d'auteur David G. Bartoli et a coécrit avec Sophie Gosselin l'ouvrage « La condition terrestre, habiter la Terre en commun », édition du Seuil 2022.
Donc, nous voyons donc que la crise que nous traversons aujourd'hui touche autant la question de la biosphère, crise climatique, que la biodiversité, sixième extinction de masse d'espèces, ou encore l'espace sociopolitique, crise de la représentativité démocratique et des minorités, provoquant un immense désarroi face à l'avenir. Les modes de production et les institutions modernes semblent ne plus pouvoir répondre aux enjeux et défis qui nous attendent. En effet, jusqu'à présent, les termes de croissance économique et de développement industriel soutenus par une technologie de pointe semblaient permettre un progrès sans limite. Sauf que, maintenant nous le savons scientifiquement et politiquement, la Terre a des limites et elle se porte mal. Car il y a bien des limites à la croissance dans un monde fini. Je rappelle le rapport du Club de Rome, dit aussi rapport Meadows de 1972. Et il y a aussi, comme nous le voyons, des limites planétaires, qui est un rapport du Stockholm Resilience Center de 2009, qui indique les seuils critiques au-delà desquels les équilibres naturels terrestres peuvent être déstabilisés et les conditions de la vie devenir défavorables à l'ensemble des vivants sur Terre. Il a été identifié 9 marqueurs comme autant de limites critiques à ne pas dépasser, permettant de voir l'évolution plus ou moins négative des impacts résultant des décisions politiques et des pratiques humaines nocives, voire mortifères. Les 9 marqueurs sont les suivants: le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, le changement d'usage des sols, le cycle de l'eau douce, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, l'acidification des océans, l'appauvrissement de la couche d'ozone et enfin l'augmentation de la présence d'aérosols dans l'atmosphère. Et là, on va voir que justement, depuis 2009, on a essayé de voir comment évoluer ces marqueurs et on voit que presque toutes, entre 2009 et maintenant 2023, 6 sur 9 ont été dépassées. Donc ce qu'il nous faut à présent, c'est penser à l'horizon 2050, des changements profonds de paradigme et imaginer de nouvelles façons d'habiter la Terre en commun. 3 moments donc, qui va être aussi mes 3 moments de présentation, penser une habitabilité de la Terre en lien à une santé commune à l'ensemble du vivant, penser la justice sociale et environnementale à l'aune d'une culture éco-centrée en lien avec le droit du vivant et de la Terre, et enfin, comment effectivement nous, pratiquement, nous allons tenter de territorialiser l'Assemblée de la Terre France dans nos régions pour dialoguer avec les acteurs sociaux soucieux de l'environnement. Donc, ce que nous constatons effectivement, c'est que la Terre est malade, elle ne semble plus pouvoir supporter la logique extractiviste et l'exploitation à outrance des ressources naturelles pour satisfaire l'économie de marché mondialisée basée sur la production marchande et l'intérêt privé. Ainsi, à l'encontre de l'intérêt public, les humains, les citoyens, et de l'intérêt général, les vivants et la Terre. En effet, comme Victor David l'a rappelé, les pratiques néolibérales, capitalistes et anthropocentrées ont eu pour conséquence de provoquer une vulnérabilisation générale des existences terrestres. Des formes de vie les plus microscopiques jusqu'à l'écosystème Terre dans son ensemble. Par contre, partout dans le monde, des luttes de subsistance écologique ont été accompagnées de démarches en faveur de droits fonciers et de droits de la nature pour pouvoir au moins se loger, retrouver des terres à cultiver, élever des animaux, boire une eau potable, tout en préservant un environnement sain. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la justice sociale et communautaire s'accompagne d'une justice environnementale. La santé de la Terre va donc de pair avec une santé commune aux vivants humains, avec les autres humains, considérant lui-même l'environnement comme un milieu vivant, condition de la vie. Alors, pourquoi la santé d'un fleuve est-elle si inextricablement liée à la santé d'une communauté humaine ? Comment se fait-il qu'un fleuve puisse constituer non seulement un milieu de vie, mais plus encore un monde porté par des valeurs sociales et politiques, mais aussi immatérielles, culturelles et spirituelles ? C'est effectivement un moment important dans notre représentation, hein, au niveau d'une cosmopolitique, que de repenser la rivière Whanganui, hein, en Nouvelle-Zélande, comme ayant maintenant, étant porteur de sujets de droit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Le Parlement de Nouvelle-Zélande a effectivement accepté de proposer une loi qui permet, cette loi s'appelle la Te Awa Tupua. Donc, vous voyez, rien que la nomination commençait à faire remonter des langues et effectivement des mondes qui ne sont pas que des mondes occidentaux. Le Te Awa Tupua fait de la rivière Whanganui un sujet de droit qui permet de préserver un territoire maori qui a été colonisé, mis sous tutelle par l'État néo-zélandais, ce qui leur permet maintenant à ce peuple maori d'être aussi gardien de leur milieu de vie. Ce qui veut dire, et ça c'est normalement impossible dans une souveraineté absolue, en tout cas dans ce cas-là, normalement, les Maoris et le gouvernement néo-zélandais devraient pouvoir partager responsabilité et bienveillance du fleuve. Ce compromis est donc d'ordre politique, il est l'aboutissement d'un processus décolonial qui durera 150 ans, et juridique, puisqu'il s'agit de l'obtention de droits autour de l'enjeu d'une santé d'un écosystème. Plus largement, c'est une certaine manière de concevoir un fleuve comme monde à partager et à soigner. La territorialité ne peut donc plus être conçue comme une perspective essentiellement anthropocentrée, et comme le dit l'adage maori, je suis la rivière et la rivière est moi. Un ouvrage de Sacha Bourgeois-Giron, donc en France, a essayé de décoder effectivement tout ce processus, et effectivement le terme être la rivière veut bien donc dire que l'humain participe pleinement à son environnement. L'importance donc de pratiques culturelles qui accompagnent les revendications de reconnaissance d'un écosystème comme sujet est cruciale, qu'elle permet d'articuler dimension sociale, politique et juridique à une nouvelle définition et délimitation d'un territoire senti penser comme vivant. Depuis cette approche éco-centrée, je ne réside pas simplement sur un territoire administratif, mais j'habite un territoire vivant qui me constitue. Il s'agit dès lors de se sentir appartenir, voire apparenté à un milieu de vie que l'on habite, vivant humain parmi les autres vivants. Dans mon cas, j'habite la Loire, je me sens ligérien. L'action de sensibilisation scientifique et culturelle semble en effet être le vecteur privilégié pour accompagner les nouvelles formes de subjectivation, confortées par le fait qu'un être vivant et un milieu vivant puissent être sujets de droit. Alors, juste avant 2017, le grand moment clé de cette pensée d'une culture éco-centrée vient bien sûr nous permettre, nous, de pouvoir imaginer un droit du vivant et de la terre en se reposant sur la loi des droits de la terre-mère qui a été effectivement inscrite dans la Constitution plurinationale de Bolivie en 2010. La capacité donc à incorporer des normes et des valeurs plus éco-centrées avec le croisement des savoirs scientifiques mais aussi vernaculaire, c'est-à-dire qui vient des lieux mêmes, des habitants, des savoirs sensibles, souvent portés par des artistes, mais pas que, est devenu un élément central de production de récits sais pas si vous voyez, mais justement aujourd'hui on essaie de réinventer des récits qui ne soient pas des grands récits nationaux, des grands récits déterrestrés, mais des récits porteurs de valeurs et prenant aussi en charge des mémoires plus profondes. Il ne faut pas aller bien loin, il suffit de voir nos grands-parents, ils ont d'autres eu manières de s'inscrire dans l'espace. Et on va bien voir, bien sûr, les nouveaux droits autochtones, mais nous aussi, nous avons nos visions autochtones et ils n'étaient pas si éloignés que ça avant la production, on va dire, d'une modernisation à outrance. Cette vision donc holistique va nous permettre de porter une métamorphose collective existentielle et sensible, et elle se traduira par l'expérimentation de modes de consommation, de production, d'organisation politique et sociale avec d'autres conceptions. Donc il nous faut penser maintenant la santé du vivant et de la terre comme une communauté de destin où vivant et autre que vivant condition d'une même condition terrestre et pas simplement une condition humaine, et où interdépendance et réciprocité deviennent des valeurs scientifiquement reconnues et juridiquement et politiquement défendables pour que nous soyons responsables devant les générations futures. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va emmener dans tout ça, hein ? Eh bien, il nous va falloir effectivement se mettre au travail pendant 3 ans pour revoir profondément nos paradigmes juridiques et politiques du vivre ensemble. Il s'agit donc de repenser les objectifs des ODD, mais peut-être plus largement repenser même le terme de développement, le terme de durabilité, le terme d'objectif, pour peut-être voir chaque monde porteur de conceptions qui nous permettraient de vivre avec une soutenabilité plus exemplaire. Il s'agit donc de repenser avec des modalités et des recherches scientifiques qui prennent en compte une approche éco-centrée. Mais aussi, il s'agira, comme a été déjà dit, de faire émerger des territoires de vie, donc des régions françaises, et ce n'est pas simplement lié à un continent, mais comme on a dit, à des territoires ultramarins, des modalités de concernement, comment se sentir concerné localement, avec des moments de partage, d'échange et de débat, et effectivement, que se rencontrent nos grands échanges dans les ateliers de l'Assemblée de la Terre. Il s'agit donc de créer des points de passage, des allers-retours entre des savoirs experts et des savoirs locaux, et de faire remonter effectivement à l'organe scientifique les propositions qui vont nous permettre d'élaborer l'avenir. Je suis membre du Parlement de Loire. Là, c'est simplement pour dire effectivement, il y a eu des mouvements comme ça depuis les années 2019 de territorialisation, où des mouvements citoyens, des acteurs de pouvoir public, des acteurs locaux culturels ont pu faire valoir une approche culturelle éco-centrée. Hop, les images, c'est ça. Donc vous voyez, pour changer d'image, à gauche, nous avons effectivement l'idée que l'Assemblée n'est plus simplement une assemblée dans un lieu fermé, distinct des êtres de nature. Donc, comment faire pour que chaque représentant du vivant puisse être concerné au lieu même de ce qui nous arrive et que la justice soit faite dans le lieu même où on se sent concerné. Nous avons la fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc là aussi, ça devient une manière de pas simplement la loi, vous voyez, comme extérieure, mais notre loi, c'est celle à partir duquel on participe véritablement du vivant. Chaque eau, moi je suis, vous savez, on est à 80% moins fondé d'eau, je suis avec vous, même si je bois un petit peu d'aujourd'hui, un peu de Toulon, mais je suis fondé et constitué de l'eau de Loire. Et enfin, depuis maintenant 2021, tous les 2 ans, on fait une remontée de Loire, de Nantes à Orléans, pour concerner tous les riviens. Et on a donc chaque soir des mariniers qui viennent en contact, on discute et les pouvoirs publics s'y mettent. Ce qui fait que maintenant, la ville d'Ancenis et la ville de Tours ont fait de Loire un citoyen d'honneur. Donc voyez comment on peut commencer à territorialiser. L'idée c'est quoi ? C'est de se dire effectivement, il nous faut donc imaginer de nouvelles alliances entre chercheurs collectifs d'habitants, pensez maintenant que les habitants sont aussi autres qu'humains, et des associations locales, étant effectivement, là vous voyez, un chercheur, on va sur le terrain, on va avec les habitants, on va avec la personne à gauche, c'est un maire, et on confronte la jeunesse à une nouvelle façon de se porter au territoire. Et il y avait une école là qui a Bertené qui s'appelait justement une école de Loire aussi pour se dire je nous mobilise à cette fin. Et donc l'idée c'est comment territorialiser ? Eh bien effectivement, on peut imaginer que des maisons des sciences humaines, hein, en tout cas à Tours c'est une MSH, mais aussi des plateformes de recherche interdisciplinaires, des dispositifs CNRS, par exemple, il y a des zones ateliers, une douzaine dans l'ensemble du territoire français, comment s'allier avec eux pour faire remonter les recherches scientifiques, des institutions UNESCO, mais aussi, effectivement, comme on l'a dit, des écoles, des universités, des institutions de mission publique et culturelle, refaire monter l'ensemble pour imaginer un dispositif où, effectivement, la parole remonte à nous, qui sommes au fond des porte-voix et des porte-paroles, et pas simplement des décideurs. Et donc, il nous faut ensemble imaginer des nouvelles orientations pour 2050, vers un avenir meilleur. Tous les membres donc de l'organisation scientifique de l'Assemblée de la Terre France vous remercient pour votre écoute.